Le contrat social. Le contrat social, c'est à la fois le titre d'un livre célèbre Jean-Jacques Rousseau et aussi la caractéristique de toute une série de doctrines qui ont essayé de rendre compte de la société politique entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Et puis, c'est un concept qui est au centre de toutes ces doctrines politiques. Chez Hobbes, chez Locke, chez Pufendorf, chez Rousseau, chez d'autres encore, on explique l'existence de la société par un contrat. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que on ne considère pas la société comme un donné, on ne considère pas que les hommes sont naturellement sociables, on considère au contraire que les hommes sont d'abord des individus et que pour expliquer la société, il faut rendre compte de la façon dont ces individus ont décidé volontairement, donc par un contrat, de vivre ensemble et de se donner des institutions. Autrement dit, il s'agit de trouver un moyen par lequel on rend visible l'union de ces individus séparés en un tout qui est la cité ou la société politique. Il s'agit d'expliquer la constitution de la souveraineté à partir d'individus qui, au fond, possédaient chacun leur souveraineté individuelle. La solution consistant dans cette figure du contrat qui revient donc à penser la politique sous les catégories du droit privé. Et cette démarche est caractéristique de tout ce mouvement qui dure pendant moins de deux siècles et qui a marqué toutes nos constitutions sur le plan théorique et nos institutions politiques dans leur pratique. D'une certaine façon, nous vivons encore, même si nous avons abandonné certains de ces termes, sous la juridiction du contrat social. Alors, l'intérêt de cette notion de contrat social, c'est qu'elle ne va pas toute seule. Elle fonctionne en corrélation avec toute une série d'autres, état de nature, loi naturelle, droit naturel, souveraineté. Et chacun de ces théoriciens du contrat social reprend à son compte ces différents concepts, mais en les réorganisant autrement, en donnant plus de poids à l'un, plus de poids à l'autre, en ne donnant pas le même contenu. Et en général, ce qu'on met du côté de l'origine se retrouvera du côté du résultat. La première notion, c'est celle d'état de nature. L'état de nature, c'est l'état dans lequel les individus se trouvent avant le contrat social. Donc dans un tel état, chaque individu ne relève que de lui-même. Alors, dans les variantes dures, celle de Thomas Hobbes par exemple, l'état de nature est un état qui peut toujours dégénérer en état de guerre. Dans les variantes plus douces, celles de Locke par exemple, il est possible que les individus survivent plutôt bien dans cet état de nature. Ils n'ont pas besoin, pendant un certain temps, de la société. Il faudra quand même qu'arrivent des événements qui rendent l'état de nature invivable d'une façon ou d'une autre, afin que l'état de société devienne nécessaire. Et chez Locke, ce sera la nécessité de rendre la justice, plutôt de la faire appliquer. Dans cet état de nature, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de loi du tout? Il n'y a pas de loi civile, puisqu'il n'y a pas de société pour les constituer. Mais il existe des lois naturelles que l'individu connaît soit par sa raison, soit d'une autre façon. Le problème, c'est évidemment que ces lois naturelles sont inapplicables, puisque chacun se les représente comme il veut, décide ou non de les mettre en application, mais n'a aucun moyen de les faire reconnaître par autrui. Le troisième concept, après état de nature et loi naturelle, c'est le concept de droit naturel, le droit de la nature. C'est très simple. Pratiquement, dans une telle doctrine, à l'état de nature, chacun a tous les droits. Il a droit à tout, puisqu'il n'y a pas de loi civile qui limite ses droits, mais en même temps, ce droit à tout risque très vite de devenir un droit à rien, puisque tous les autres ont aussi droit à tout, et que les droits que je peux exercer contre autrui, les autres peuvent les exercer contre moi, et qu'il n'y a aucune règle pour venir régler cet exercice. Donc c'est le caractère à la fois incontrôlable et totalement incontrôlée du droit naturel, qui va faire que l'état de nature va devenir invivable et qu'il sera donc nécessaire de passer à l'état de société. Mais comment passer à l'état de société puisqu'elle n'existe pas naturellement? Il faudra donc que les individus produisent cette société à partir de ce moment originaire qu'est le contrat social, le pacte social. Il y a donc une sorte de deux origines dans une telle conception. Il y a l'origine absolue qui est l'état de nature et l'origine relative qui est le contrat social dans lequel les individus décident de quitter l'état de nature, donc de se dépouiller d'une partie ou de la quasi-totalité de leur droit naturel pour décider d'entrer dans une société où ils obéiront à un souverain, ce qui n'existait pas avant. Et en prenant cette décision, naturellement, il crée un souverain à qui il donne une force. Alors on peut le dire en des termes abstraits. Il lui donne la puissance qu'il possédait même avant, ou il décide de céder devant sa puissance. On peut le dire en termes très concrets. Il aura droit de voir une justice, une police, une armée. Donc, l'entrée dans la société civile, le pacte social, c'est un mixte d'engagement volontaire et de recours à la force. L'engagement volontaire justifiant le recours à la force, le recours à la force permettant qu'on ne revienne pas en arrière par rapport à cet engagement volontaire. Toute la question étant de savoir dans quelle mesure ce recours à la force permettra réellement de ne pas revenir en arrière ou au contraire sera inefficace ou produira son contraire, c'est-à-dire la dissolution des sociétés, à savoir en termes historiques, la guerre civile. On a donc là toute une série de concepts qui prétendent rendre compte de la réalité civile, sociale, mais en même temps, on peut se demander quel est leur usage réel. Est-ce que cette série de concepts sert à légitimer la société et à dire aux citoyens, aux sujets, vous voyez, vous n'avez pas de raison de vous révolter, puisque autrefois vous avez passé un pacte, ou vos ancêtres ont passé un pacte, ou même si ce pacte n'a jamais été passé, on peut faire comme s'il avait été passé. C'est la question du caractère historique ou pas historique du pacte. Ou bien, est-ce que ce pacte sert à critiquer la société et non pas à la légitimer? Parce qu'on peut aussi dire, regardez, le pacte a été passé à telle et telle condition, et nous constatons qu'actuellement, le souverain ou le gouvernement ne respecte pas ces conditions. En conséquence, le pacte devient invalide et on a un droit légitime de se révolter contre le souverain. Le pacte social est donc un instrument qui peut servir à plusieurs fins. Il peut rendre compte de la société, fin scientifique si on veut, il peut la légitimer, fin idéologique. Il peut également la remettre en question. Et c'est ce qu'on verra se passer, par exemple, lors de la révolution de 1789 et 93. C'est aussi ce qui s'était passé lors de l'insurrection américaine de 1776. Donc, on a là à la fois un concept qui peut s'utiliser dans différentes directions et qui est comme le pivot de toute une série conceptuelle qui ne prend sens finalement que grâce à lui.